Et en plus, bonjour.
T'as fait non. Je m'attendais pas que ce soit maintenant en fait. Donc j'étais genre en train de penser. Viens, faut que je parle. Faut que je parle. Merde. Ça arrive.
On recommence.
Un blooper, super.
Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien pour la deuxième partie de notre best-of 2016. Aujourd'hui, on parle série, lecture, internet et 2017. N'oubliez pas d'aller sur le site pour consulter le post plein d'infos supplémentaires et de goodies. Bonne écoute d'ici là. Alors, je vais vous demander de faire deux parties quand vous parlez de la série. Première partie pour les gens qui n'ont jamais vu. Deuxième partie pour ceux qu'on vu, et donc dans le cas d'une certaine série qui va être citée, les gens qui n'ont pas toujours pas vu la fin vont se boucher les oreilles, c'est-à-dire moi et Marine. Vas-y Thibaut, tu commences.
Ma série préférée de l'année 2016, c'est Luke Cage. Gros coup de cœur. J'ai mis du temps à la regarder, beaucoup de temps à la regarder, j'en avais beaucoup entendu parler.
Oui, non, mais tu vas regarder un mois, deux mois, trois mois après sa sortie. Il y a des gens qui mettent 10 ans à regarder une série, tu vois, ou 15.
Game of Thrones que t'as découvert, non.
Les autres membres du podcast se retournent contre toi, pardon. Donc Luke Cage, que tu n'as pas regardé tout de suite.
Game of Thrones, j'avais une bonne excuse, j'étais au CFA avec des abrutis qui parlaient leur temps de qui passaient leur temps à me parler de Game of Thrones en français. Oui. C'était horrible. Et surtout les mecs qui utilisaient des noms, ils me parlaient de trucs, ils me parlaient d'inceste. T'étais là, qu'est-ce que c'est que cette série? Ça a l'air fortement bizarre. Et surtout, j'avais pas HBO, j'avais pas OSS.
OCS,
je pouvais pas regarder quoi. Enfin,
je repense à la tête quand t'as fini par comprendre que Jamie et Cersei étaient frères et sœurs. Quand on te l'a annoncé, tu fais bah oui, mais ils sont frères et sœurs. Elle a fait quoi? What? C'était très très drôle. Pardon. T'étais déjà au milieu de la saison 1, voire à la fin de la saison 1.
Il a fallu quand même 6 saisons pour comprendre le nom de tous les personnages et m'en rappeler.
T'inquiète pas, il y en a qui n'en parlent pas.
Tu les auras oubliés pour la saison prochaine.
Non.
Oui, parce que t'as regardé les 6, c'est... En tout cas, vas-y.
Luke Cage, que dire? C'est génial. c'est génial comme série parce que c'est un super-héros noir, déjà. Dans le contexte aux États-Unis, c'est encore plus impactant à mon goût. Enfin, pour moi, c'est vraiment... ça dénonce pas mal de choses. C'est vraiment intéressant. Et surtout, moi je trouve l'histoire géniale. J'aime beaucoup les super-héros dits de rue, entre parenthèses, donc moi ça me rend le truc encore plus génial. Et surtout le fait que Luke Cage est à la base un mec normal quoi. Et c'est vraiment génial. Toute l'histoire est géniale. Du moment où il dit qu'il veut pas être le gars et au moment où il comprend que bah il a pas le choix d'être le gars. Et qui devient le gars, c'est vraiment génial.
Du coup, et c'était ta première série Marvel Netflix?
Ouais, donc après, du coup, j'ai regardé Daredevil. J'ai toujours pas regardé Jessica Jones.
You have to watch it! Merde, j'ai perdu 6 mois en disant ça, je l'ai découragé de le regarder pendant 6 mois. Donc là, t'as dit. Ouais, Daredevil. Donc, autre chose que tu peux dire dessus pour les gens qui l'ont pas vu?
Regardez-le.
Moi j'ai envie de dire aussi visuellement, musicalement.
Ouais, la musique. Oh, la musique est excellente. C'est vachement impressionnant. Et puis, non mais tous les personnages, c'est vraiment l'univers en fait. Il n'y a pas un personnage qui te laisse indifférent. Ce qui est quand même vachement rare. Toi Marine qui a vu plus que Yael. Ah non, vous êtes au même point.
Maintenant on est au même point. Elle a un épisode.
Je pense que vous pouvez toutes les deux le dire. Il n'y a pas un personnage qui te laisse indifférent. Que ça soit que tu as envie de la tarter ou que
tu as envie de prendre son arme et de te dire t'as vu ça et de pousser contre la rambarde pour qu'il se casse la gueule.
Juste de lui dire merci, mais c'est vraiment hallucinant et c'est vraiment bien. Et moi je trouve que 13 épisodes, même s'il y a un petit moment d'égarement dans la série, un tout petit moment, je pense que c'est entre l'épisode 7 et 10, il y a un tout petit moment, mais franchement, même pas en fait. Enfin, c'est vraiment pour être pointilleux, pour trouver un petit truc. Parce que franchement, c'est vraiment génial, quoi. C'est énorme comme série.
Ben, moi, j'ai. Avant que tu passes à la partie spoiler où tu peux parler de la fin et de ce que tu as aimé pour la fin, et on va le labelliser dans le post et sur. Dans le fichier sur iTunes. Moi j'ai eu le plaisir de faire un panel Luke Cage à Comic Con où j'ai rencontré Mike Coulter et surtout j'ai la costumière avec qui j'ai fait deux panels le premier Luke Cage et un autre sur les costumes des séries Marvel. Et c'est vrai que quand tu les entends parler de la collaboration avec le créateur, de... enfin, c'est... tu sens que c'est... qu'ils ont tous pris ça hyper au sérieux et que c'est pas n'importe quoi. Et on revient à la politique sociale, sociale et culturelle de Disney. Enfin, tu vois, même si c'est que... même si c'est pas Disney qui dit à Marvel de faire ça, tout ça, ça découle d'une volonté de toutes les franchises Disney d'avoir, d'être plus diverses, de parler de populations dont on parle pas d'habitude. Pour un simple désir de divertissement, hein, juste pour faire des meilleures séries, hein, soyons clairs, c'est une question aussi commerciale, mais que clairement, y a une volonté très forte de, ben, on va changer, on va avoir des gens de couleurs différentes, d'histoires différentes, et de genres différents, et ça fait plaisir. Maintenant, je vais me boucher les oreilles, Marine aussi, tu peux parler.
Non, moi, ça me gêne pas, je suis pas.
Qui raconte ce qui se passe à la fin.
Spoiler, ça, non, ça me dérange pas.
Voilà, moi, je vais me boucher les oreilles, je vais fermer les yeux, et donc quelqu'un me tape sur l'épaule quand il aura fini de parler de ce qui se passe à la fin de la saison 1 de Luke Cage.
Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, c'était enfin, le fait qu'il soit ramené à la réalité, que c'est pas genre juste parce que c'est un super héros, on lui passe tout, c'est vachement bien, quoi. Et parce que moi, c'est vraiment. C'est, bah, d'ailleurs, avec elle, on a eu une grosse conversation. Un peu animé, et Marine peut en témoigner un soir sur Marvel, où je reprochais que justement tous les super-héros commençaient vachement à se ressembler, et que la... enfin, c'était un peu tout le temps la même histoire pour chaque super-héros. Et donc j'étais en train de. Et donc après ça, j'ai regardé Luke Cage et j'ai fait ok, non, je te trompe, c'était vachement génial, et enfin, c'était la fin est vraiment bien, et ça ramène vraiment à la réalité. Tu te dis que c'est pas juste parce que c'est un super-héros qu'on peut tout lui donner. Et y a le problème de l'identité du super-héros qui est révélé. Il y a des trucs qui sont cohérents quand même dans la fin, parce que Luke Cage mène une double vie, en gros c'est pas son vrai nom, on apprend que c'est pas sa vraie identité. Et il passe à la télé et tu te dis comment le mec passe à la télé pour... et ne peut pas être reconnu, et en fait si, il est reconnu, et c'est génial. Vraiment. Et il y a plein de scènes qui sont géniales. Moi je pense surtout à la scène où il est en fuite. Et
c'est quel épisode ça, c'est avant le 11 ça.
Je sais plus, ouais.
Il en fuite avec Rosario Dawson, j'ai oublié son cesse qui vient le...
Ouais, il se cache et en fait la description du suspect pour les policiers, c'est un homme noir avec un sweat, une capuche et le sweat avec des impacts de balles. Et en fait, tout Harlem se passe des suites avec des impacts de des trous dedans, et je trouve ça genre génial.
Ouais, ouais.
J'étais juste en train de jubiler quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est trop bien!
Ouais, oui, c'est vraiment sont soudés, enfin, ouais. Etc.
Et vraiment, la fin de la série, je vais pas la dire non plus, mais c'est vraiment.
Donc génial. En fait, elle aurait pu tout écouter.
Oui. Et oui, puis surtout, il y a un truc, la mort de Cottonmouth.
Ah oui, c'est clair que c'est.
Ah oui, ça
c'était. C'était tellement pas prévisible, je m'y attendais tellement pas, j'étais là, what?
En fait, moi, je voyais le truc qui allait à... Enfin, je sais pas... Enfin, le fait qu'il monte la mère, en fait. Enfin,
oui, Alfred Woodward, ouais.
Ouais, pour c'est montrer comment elle est... Pour que tu comprennes un peu le côté... Enfin, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, etc. Et que tu vois l'autre, tu sens que ça va bouillir. Je me suis doutée que c'était elle qui allait le tuer, en fait. Je me suis dit, elle va péter un plomb, parce qu'elle... Elle est pas aussi... Ouais, aussi clean que qu'elle en a l'air, tu vois. Enfin, elle n'est pas clean du tout. Non, mais elle n'est pas clean. Mais ce que je veux dire, tu vois, non, parce qu'elle disait, t'avais pas besoin de tuer cette personne devant moi, ou toujours en train de se plaindre qu'il tuait les gens, tout ce genre. Et genre, je me suis dit, elle, ça va, snap, puis, tu vois, ça va.
Tu vois, en fait, moi aussi, ce que j'ai vachement aimé, c'est le message politique, c'est de se dire que, en fait, tu te rends compte que les politiciens, au jour d'aujourd'hui, jouent vachement sur le fait d'être une communauté. Et elle, c'est ce qu'elle fait pour être, je sais pas, c'est être élu quoi, gouverneur de Harlem, ou je sais pas trop.
Non, je pense qu'elle est. Je sais pas si elle est. Non, c'est pas City Council. Ouais, donc c'est les gens qui sont au conseil. C'est comme le conseil régional ou le conseil municipal.
Mais en tout cas, elle joue vachement sur une communauté où au final, tu te rends compte que la communauté, elle cherche pas. Enfin, elle cherche à la représenter, mais elle la représente mal en fait. Mais le fait que ce soit une communauté, t'as plein de gens qui la soutiennent parce qu'ils disent ouais, elle représente notre communauté. Alors qu'elle la représente super mal, les gars, elle vous enfonce plus qu'autre chose. Enfin...
Bah, c'est pas complètement vrai, hein, mais c'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, elle la défend plus que d'autres gens la défendent. Parce
oui, c'est
que justement...
ça, mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'elle la défend, mais elle la défend mal. C'est en fait le...
Bah, elle essaie d'apporter du revenu et de l'argent dans en le fait... truc, et de surtout la garder noire, parce que c'est un vrai combat de Harlem, quoi.
En fait, le message... En fait, la... Comment expliquer ? L'intention est bonne, mais la réalisation ne l'est pas, en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est...
Après, moi, j'avoue que je suis un peu fatiguée du cliché que tous les politiciens sont pourris qui est un peu un truc que, dans temps, toute la fiction.
C'est entièrement un cliché, non,
oh. Ah, c'est, ouais, ça serait un... c'est aussi entièrement systématique dans la fiction.
Oui, oui.
Et du coup, ça nous donne l'impression que c'est vraiment systématique dans la vie.
Mais sauf qu'elle n'est pas entièrement pourrie non plus. Enfin, tu sens qu'elle a quand même un vrai. Tu sens qu'elle a quand même envie de défendre Harley.
Mais oui, mais du coup, vu que plus ça va, plus elle va vers le. Ils vont... Enfin, après, moi, je sais pas comment ça se
termine. C'est un très bon lien pour ma série, moi, ça. Juste ce truc-là, genre, les politiciens, moi,
j'ai. Non, mais justement, de montrer que, ouais, que les. Parce qu'en fait, moi, je viens de revoir Tupac Smacration, donc c'est vrai que ça me fait penser que des fois, la politique, ça peut être positif. Mais moi, en fait, j'ai lu après, bon, pendant que je préparais le panel, j'ai lu un truc sur Luke Cage, en fait, à la base. Et en fait, Mama, c'est la méchante. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Mama. Je sais plus comment c'est. Mais un truc, c'est que c'est l'antagoniste de Luke Cage, quoi. Mais je pense que c'est censé être un monstre ou un super villain et tout. Et qu'en gros, du coup, en fait, toute la première saison, c'est la genèse de l'ennemi de Luke Cage, quoi. C'est ce que j'ai. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai. Je sais pas si vous avez lu des trucs sur Luke Cage, le comics.
Non.
Mais je crois que c'est un truc comme ça.
Non, c'est un des rares super-héros.
Non, j'ai plus de trois trucs par rapport à Jessica Jones, c'est tout.
Et puis le truc qui se passe en prison avec les combats.
Oui.
Ah bah,
ça, c'est un truc quand même. Même s'il n'y a pas le côté super-pouvoir machin et tout, je pense que c'est un truc, à mon avis, qui doit vachement exister dans les prisons.
Bien sûr, faut que tu vois la série Oz. La série Oz qui se passe dans une prison et.
T'as jamais entendu parler
de Oz? Ça te donne une autre image de la prison. C'est une série qui te plairait en plus, vachement.
Ah, toi, c'est une série qui te plairait. C'est une série que je peux pas regarder, elle est trop dark, mais toi, ça te plairait.
C'est une série super dark et qui m'a fait
pleurer
les larmes de mon corps.
En gros, c'est la première série HBO. C'est la première série qui a changé les séries, en fait.
Sur Oswald,
qui date de la fin des années 90. Et c'est sur un programme pilote de prison où ils essayent de créer un espace différent. Pour que les délinquants se.
Ça, mais ouais, je récupérerai. Okay.
C'est con parce qu'on avait.
Ah oui, c'est.
Anyway, passons. Voilà, donc, ok, Luke Cage. Et ben moi, je suis très contente. Moi, j'ai hâte que tu vois Jessica Jones et que tu me dises ce que t'en penses. Ouais. Je sais pas si ça te plaira autant que Luke Cage, mais je suis en tout cas contente que tu regardes les trucs Netflix, parce qu'on pourra aller regarder tout ça.
Aussi, j'aime beaucoup la métaphore de Luke Cage, aller boire un café. Je trouve ça génial. Voilà.
Hein?
T'as pas la blague de j'ai envie d'aller. Tu viens boire un café avec moi? Mais j'aime pas le café en fait.
Ah oui.
Le café.
Oui, c'est ça. Ça y est, je me suis souvenu de la scène. C'est bon, c'est très très vif dans mon esprit.
Moi, ma série, c'est Branded.
Yeah.
Qui est le petit, le un des, enfin le dernier, enfin. Bijoux avant le prochain des King et de Michel et Robert King, c'est Robert un peu, je te répète.
Moi non plus, je sais jamais le nom du mec. Elle s'appelle Michel, lui je crois qu'il s'appelle Robert.
Qui raconte d'une façon simple, c'est sorte donc invasion de d'insectes extraterrestres à la Maison Blanche. Comme ça, ça résume. Mais je vais développer.
Au Congrès, pas avant la Maison Blanche, parce qu'on voit pas, il y a pas de président.
Mais en fait, c'est. Donc en fait, ça raconte l'histoire de d'une jeune femme qui se retrouve à travailler au Sénat parce que elle n'a plus de sous pour payer son. Elle fait des documentaires et en fait, elle a plus de fonds pour son documentaire, donc elle est obligée d'accepter un boulot. En travaillant pour son frère, parce qu'elle a une famille qui est dans la politique. Lui, il est sénateur, donc démocrate. Et en gros, elle se retrouve là, elle déteste la politique, complètement. Et elle se retrouve au milieu de tout ça, et elle se rend compte que des insectes extraterrestres prennent possession du cerveau. Des politiciens et en gros et dans les deux partis soit démocrates et républicains et c'est absolument génialissime, c'est une c'est tout ce que tu veux, c'est une science-fiction, satire politique, comédie, drame donc en 13 épisodes de 42 minutes et c'est un malheureusement qui n'a pas été renouvelé alors qu'à la base c'était prévu pour 4 saisons avec le premier donc au Sénat, le deuxième à Wall Street, le troisième au Silicon Valley, le quatrième à Hollywood. Oh Hollywood, j'aurais adoré voir ça.
Ah, je savais pas ça. Oh, c'est donc, cruel.
Et donc le truc, c'était vraiment, ils avaient vraiment prévu ça à 4 saisons, quoi. Donc après, donc, je me dis, ils peuvent toujours le relancer plus tard, hein, on sait jamais, parce que les acteurs sont absolument géniaux. En plus, il y a moi qui suis une grande fan de The Good Wife, qui est le bébé des Kings, en fait. Et The Good Fight va sortir en février 2017. J'en reviendrai pour mes expectations 2017. Spoiler. Et en gros, il y a des acteurs de The Good Wife qui jouent dedans des petits rôles, genre le père de l'héroïne. Et en fait, il y a aussi une histoire d'amour entre un démocrate et un républicain qui est absolument génialissime. Les personnages secondaires sont super. Elle rencontre des mecs, mais un mec est complètement taré. Avec un twist à la fin qui est quand même hallucinant par rapport à ça. C'est génial. Mais c'est drôle. Ouais. C'est satire politique, quoi. C'est vraiment le... C'est décapant.
C'est jubilatoire.
C'est génial. Et puis, cette histoire d'amour est super parce que c'est genre... c'est pas très, très commun. Et ça met toutes ces différences parce que lui, elle travaille pour son frère qui est sénateur et son love interest est justement travaille pour un sénateur républicain qui n'est pas très clair parce qu'il a un petit insecte dans sa tête. Bien sûr, tous les deux ne sont pas atteints.
Spoiler
alerte. Après, on ne sait pas dans le...
Au début, en tout cas.
Au début, ils ne sont pas atteints, etc. Mais par contre, il y a la scène... Il y a une scène... Non. Je veux dire, il y a une scène absolument... génialissime, c'est genre... C'est un monument, c'est genre... Il y a un ovni en même temps, parce que tu te dis genre... How? Comment c'est possible? Comment ils ont pu imaginer un truc comme ça? Mais comment ils vont s'en sortir? Et tu fais genre...
Ok.
Bah, ok. C'est super, c'est drôle. C'est... Et puis, il y a la musique par rapport à cette série qui est génialissime. Le générique est génialissime. Mais ça, faut que vous, enfin, faut le voir. Enfin, je veux dire, c'est comment s'appelle la
Jonathan Coulton
qui fait le générique. Enfin, surtout que c'est pas le premier dans le premier épisode. Il dit ça.
Mais non, parce que c'est toujours. Il fait le preview séance, donc c'est pas tout.
Et il chante le previously. Il chante et t'explique tout ce qui se passe dans l'épisode d'avant, etc. Et c'est drôle. Et t'as juste, c'est génialissime. Et c'est super.
Celui que vous m'aviez montré, c'était où il parlait pas du tout de la série.
Ah oui, Fight Gunsmoke. Genre, j'en ai marre de parler de la série, du coup, je vais vous en parler. Du coup, j'ai regardé autre chose. C'est une autre série.
Donc voilà, en tout cas, Branded, c'est un bijou.
On va en parler, on fait un peu. Non, on continue les séries de l'été dont on parle en hiver. On va en faire un.
C'est une déception du fait que ça ne soit pas renouvelé pour une seconde saison parce que c'est.
Mais on est heureux de savoir que les Kings vont
écrire. C'était tellement agréable de voir. Quoi?
Non, c'est nul.
Oui, je sais, tu fais violon.
J'ai cru que tu faisais violon, genre que je...
Ah non.
Que genre...
C'était pas méchamment.
Oui, t'aurais dû voir ta tête. Genre, la tête que t'avais,
c'est... Tu veux dire... Attends. Je parle trop, c'est ça?
Non.
Moi, je parle trop? Donc, il parle jamais? Alors que là, pour une fois, je parle du truc, et c'est genre, je suis en train de...
Non, vas-y, mais termine.
Non, mais quelque part...
J'ai fini.
Quelque part, un des trucs que j'ai adoré dans Braindead, c'était que t'avais l'impression que c'était les Kings qui regardaient la campagne présidentielle.
Ah, complètement.
Et qui pétaient un câble sur dire, mais ils sont tous tarés. C'est comme s'ils avaient des insectes dans le cerveau, quoi.
Ouais.
Et ils se sont dit, et si on le justifiait comme ça? Et quelque part, il y a vraiment... Je veux dire, c'est une satire politique, mais ce que ça satirise le plus, c'est la radicalisation des deux côtés.
Ah,
des démocrates comme des républicains, c'est-à-dire que c'est pas partisan, ça parle du fait de complètement d'être incapable de se parler, de s'écouter, justement encore un truc sur la non-communication, et qu'en fait après ça parle aussi des très 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 dommageables problèmes de Washington, quoi, c'est-à-dire de pourquoi on peut pas avancer, pourquoi c'est absurde, les lois absurdes, les trucs absurdes, enfin il y a vraiment un truc sur l'absurdité du système qui n'est pas vraiment de la satire, qui est de la réalité. Oui, c'est super, Braindead.
Tout ça sera développé dans un futur podcast.
C'est ça. Parce que je pense que ça mérite qu'on y revienne vraiment. Et en fait, ça, on voudrait faire avec Dom. Et Dom, il est compliqué à attraper. Donc, dès qu'on le coince quelque part, on fait Braindead.
On a mis un insecte dans le cerveau.
On peut pouvoir le contrôler. Ma série 2016. Alors, c'est rigolo parce que c'est... C'est une série où, si on m'avait parlé, on m'avait pitché les différentes séries qui allaient sortir en 2016, celle où j'aurais dit, bon, alors celle-là, faut vraiment que je la regarde parce que c'est clair que ça c'est pour moi. Pas tant ça va me plaire, mais genre, c'est dans ma chapelle, faut que je vois, faut que je puisse en parler, c'est important. Voilà. Et j'ai vu le pilote et j'ai trouvé ça vachement bien. Je ne trouve pas dit le titre, hein, je ne sais, mais j'ai vu le pilote, je trouvais ça vachement bien. Et malgré tout, je suis restée assez frileuse et j'ai mis du temps à regarder la suite. Et en regardant la suite, j'ai fait « Eh ben ouais, c'est ma série préférée de l'année, bingo !» C'est « Better Things » de Pamela Adlon de FX. Alors, je resitue, pour ceux qui n'en ont pas déjà entendu parler ou qui ne savent plus trop ce que c'est et qui savent qu'ils ont entendu le titre. Pamela Adlon, c'est une petite brune, c'est une actrice que vous avez vue peut-être dans Californication où elle faisait la meuf de l'agent, mais vous l'avez aussi vue si vous êtes fan de Louis. Dans Louis, où elle joue le love interest un peu impossible qui s'appelle Pamela. T'intéresses vraiment à Louis, savent qu'elle est aussi du coup une collaboratrice de Louis C.K., qu'elle a participé à l'écriture de Louis au moment où il a commencé à avoir besoin d'un peu d'aide et d'un point de vue différent, notamment féminin. Louis C.K. est quand même, pour beaucoup de gens, si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est quand même vraiment une des voix comiques les plus intéressantes et les plus expérimentales dans sa série. Il fait du stand-up, mais sa série Louis est très... est différente de... Bah, ça a été... En gros, pour la créer, le mec de FX, à l'époque, lui a donné un budget pour le pilote en... Louis lui a dit, donne-moi le moins possible... Enfin, le plus que tu puisses me donner sans avoir à me demander aucun compte sur ce que je vais faire. Je vais pas à te montrer de script, pas à te montrer de vidéo, je le fais dans mon coin. Qu'est-ce que tu peux me donner comme enveloppe pour faire un pilote comme ça? Et Len Graff, le super patron de FX, lui a donné une enveloppe de jeu assez limitée, mais j'ai... Et il a fait son pilote... Tout seul, sans aucun truc de producteur. Moi, je pense que souvent, tu as besoin d'exécutifs et de producteurs. Tu peux pas toujours faire un truc bien tout seul. Mais lui, il a fait un espèce de bijou ovni dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Sinon, je vous conseille de lire les papiers de nombreux critiques qui sont fans de Louis. Et en gros, il est un peu arrivé au bout de sa série. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est pas sûr d'avoir une nouvelle saison. Par contre, la collaboration avec Pamela Adlon... lui a donné envie de continuer à collaborer, mais pour raconter d'autres choses, les histoires que Pamela aurait envie de raconter. Donc Louis parle d'un comique à peu près de l'âge de Louis C.K., qui habite à New York, qui fait du stand-up, qui élève en coparentalité avec son ex-femme ses deux petites filles. Et bah du coup, Better Things, c'est la vie de Pamela. C'est-à-dire que c'est une femme qui a trois filles, qui est célibataire, et qui est actrice, qui travaille dans l'industrie d'Hollywood, qui est plus ou moins connue, un peu comme elle, et qui essaye de vivre sa vie. Et c'est différent de Louis, parce que c'est quelque part plus linéaire. Louis a vraiment un côté ovni, surtout dans les premières saisons, alors qu'il s'amuse avec la structure, il expérimente beaucoup. Là, c'est beaucoup plus une série classique. Et en même temps, le choix des sujets d'épisodes et des moments de vie, c'est pas du tout une sitcom. Et les thématiques sont plus transversales que être « Oh, au début, dans la première scène, tu as un problème que tu dois résoudre, et puis après, tu as un retournement de situation, et hop, à la fin, tout le monde est content. » C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un témoignage d'une honnêteté et d'une émotion incroyable sur ce que c'est que d'être une mère célibataire, d'élever trois filles, dont une petite, une moyenne et une Nado, t'as envie de frapper du début à la fin. Elle gêne. Tout le temps, et elle a genre 15 ans et elle passe son temps à traîner avec des gens peu recommandables, et sa mère essaye d'être une bonne mère et en même temps de pas se faire écraser par sa fille et en même temps de la soutenir et en même temps de savoir qu'elle est insupportable parce que c'est une ado. C'est vraiment touchant parce que c'est un peu comme Parenthood, c'est des parents qui sont des gens bien, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, mais ça veut pas dire que c'est facile d'être parent parce que quand t'es face à la réalité de la vie, c'est compliqué. Elle a sa mère qui habite à côté de chez elle. Ça fait d'ailleurs vachement penser à Carrie Fisher et Debbie Reynolds parce qu'elle partage aussi l'allée devant la maison qui a l'air de sombrer un peu dans la folie douce. Mm-hmm. Et sa relation avec sa mère est complètement hallucinante. Puis sa mère est jouée par une actrice, j'ai oublié son nom, mais c'est une actrice assez connue qui est britannique. Du coup, c'est très bizarre parce qu'elle a un accent ultra poche. C'est Mary Poppins qui habite de l'autre côté. Il y a aussi un truc sur la vie de Los Angeles, sur ces espèces de familles hyper progressives, modernes, mais qui quand même continue à avoir des problématiques par rapport aux questions du droit des femmes, des différentes couleurs. Il y a un épisode génial qui s'appelle Brown, avec dedans un personnage black, et enfin c'est pas le seul de la série d'ailleurs, mais là il y a un truc particulier qui se passe dans cet épisode qui est génial, et ça parle aussi de l'industrie d'Hollywood. Tu vois comment elle est traitée, elle, en tant que comédienne semi-connue d'un certain âge, par le système. Et du coup tous ces trucs superposés pourraient en faire un truc assez dur et assez triste et assez cynique. Et
bon bah c'est la prochaine que je regarde, c'est bien.
Et en fait c'est pas du tout comme ça, c'est beau. Enfin, en fait, c'est mon modèle. Elle s'appelle Sam dans l'histoire. Sam est devenue mon modèle. Je veux être comme elle quand je serai grande. Bon, 3 enfants, je vais avoir, faut que je commence à les faire. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est une vraie série. Et moi, j'aime les séries comme ça. Je sais que c'est... moi, la culture du lentier... Quoi ?
Il s'agit de comment faut que je commence à les faire.
Non mais la culture du lentier-héros est quand même un truc dominant dans la culture série depuis un certain nombre d'années, et moi j'ai envie de héros, moi j'ai toujours voulu voir des héros, et du coup le fait d'avoir une femme comme ça, qui est drôle, qui est intelligente, qui est complexe, qui assume le fait que des fois elle sait juste pas quoi ce qu'elle doit faire avec ses enfants, et elle doit pas ce qu'elle doit faire avec elle-même ou avec les mecs ou avec ses amis, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, puis surtout la démarche de la créatrice, quoi. Le fait de moi, c'est ce que je rêverais d'arriver à faire, c'est d'utiliser la fiction pour partager la complexité de la vie tout en donnant du réconfort, de l'espoir et autre chose. Et donc Better Things est effectivement tout aussi génial que j'espère que ça le soit. Après c'est FX, j'ai dit Landgraf, la super politique de Landgraf, mais soyons clairs, les séries FX, Atlanta est l'autre grande série de l'année pour le coup, qui est sur beaucoup de top 10, donc j'ai moins besoin d'en parler, ce sera dans mon top 10 Test Magazine. Et, mais il y a aussi, c'est la chaîne qui a You're the Worst, c'est la chaîne qui a fait Archer, c'est la chaîne qui fait American Crime Story. On est quand même sur une chaîne qui a une qualité hallucinante de série, et bingo, ils ont tapé leur mille. Et c'est vraiment un truc, quand j'entends parler, je dis, ah ça va encore être une super série. Et bah oui, ça ne déçoit pas une seule seconde, mais différemment de ce que j'attendais, ce qui est encore plus fort.
Et moi j'ai vu que le pilote de Better Things, je sais que j'avais, enfin je l'ai vu avec toi de toute façon, et on en a parlé pour les pilotes, on en avait un petit peu parlé, et c'est, ça m'avait vachement plu, et je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé, en même temps j'en ai pas regardé beaucoup de...
Mais après...
Je suis pas lancée de regarder des séries, mais faut que je le regarde, ça j'ai très envie de la regarder, c'est clair que ça m'avait vachement plu.
Mais il y a quand même, quand tu regardes ça, t'as toujours un peu, j'ai toujours un peu la peur que ça soit cynique quoi. Quand je regarde juste un pilote comme ça, j'ai toujours peur que, comme ces séries modernes, du câble, du machin, que ce soit...
Ouais, moi j'ai pas eu cette impression pour ça.
Non mais, moi, du coup, ça m'arrête après, du coup, souvent, de regarder
ça. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais pour ça, là, je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé, en fait. En même temps, on a vu tellement de bons pilotes...
Qu'on a pas regardé, on peut pas regarder la suite.
Et alors, je sais pas si on a peur de la qualité, je sais pas, parce que finalement, on va regarder des trucs qui sont pas forcément les meilleurs. ou genre, enfin... Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va regarder des séries comme Timeless qui sont pas forcément les meilleures séries qui ont été faites.
Ouais, mais...
Mais c'est super! Mais
c'est vrai que moi je regarde tout NCIS.
C'est vachement réaliste aussi en même temps. Donc c'est un truc genre, c'est beaucoup plus simple de regarder une série où tu peux partir dans ta tête et tu n'as pas besoin d'affronter la réalité de Better Things qui parle vraiment de ce qui se passe.
Ou de This Is Us et Queen Sugar. On a vu que le pilote toujours. Qu'est-ce que tu dis sur Timeless?
Je croyais qu'on avait vu le 2.
Non, on n'a pas vu le 2.
Sur Timeless.
Ah non, je sais pas, j'ai entendu que tu disais quelque chose, mais j'ai pas entendu ce que t'as dit, c'est pour ça.
J'ai dit, tu regardes Chicago Fire en même temps.
Ouais, enfin en même temps, j'ai 3 saisons de retard, donc je regarde lentement.
C'était son rêve de lancer un pic sur le fait qu'il regarde Chicago Fire et.
Il l'a préparé, il essaie de la sortir depuis tout à l'heure.
Tous les Chicago, pas que Chicago Fire.
Non, mais j'essaye, mais c'est compliqué d'être à jour.
Attends, entre ça,
parce que du coup, en fait.
NCIS, il y a tellement de choses, attends, c'est bon. On peut en parler pendant.
Mais il y a pratiquement aucun podcast où je ne mentionne pas le fait que j'adore NCIS. Donc voilà, série, c'était bien. Maintenant, alors on va faire un autre truc, on va dire. Donc là, c'est un truc, c'est un peu la catégorie hashtag honteux, parce que moi j'ai une réalisation sur ma vie 2016 qui m'a un peu déprimée. Mais j'espère pour vous que c'était pas le cas. On parle lecture, parce que quand même, faut pas oublier que c'est bien de lire. Alors, Thibaut ? Toi, ta lecture 2016 ?
Donc, alors moi, le livre qui m'a marqué en 2016, c'est pas un livre qui date de 2016, c'est un livre qui date de... Waouh ! Il me semble que ça date de genre 1812, si j'ai une bonne mémoire. C'est Martin Eden de Jack London. Alors, Martin Eden, beaucoup de gens le définissent comme l'autobiographie de Jack London, ce qui n'est pas entièrement vrai parce que à la fin, enfin spoiler, à la fin du livre, Martin Eden meurt. Waouh. Ah merde, tu dois le lire.
C'est vrai que tu lui as offert le bouquin pour qu'elle le lise. Ça, c'était pas mal, genre.
Non. Bon, après, il m'a offert dans une édition qui est illisible, littéralement. Mais je vous enverrai des photos, vous comprendrez. Mais oui, je suis censée le lire, mon chéri. Bon, alors, donc spoiler okay. alert. Qu'elle... Ok,
et
Martin.
Enfin, et donc, il y a beaucoup. Mais et Jack London, je vais pas dire comment meurt Jack London.
Tu veux dire que John n'est pas mort hein, et a
200. Et Jack London.
Il est mort plus tard après avoir fini le film.
Il meurt quasiment de la même manière que Martin Eden. Je ne dirais pas comment.
Mais vu que tu sais peut-être.
Bouffé par les loups. Pardon, me dis.
Ne lui lance pas une perle.
Le seul truc que je connais de Jack London, c'est l'appel.
L'appel des loups.
L'appel de The Call of the Wild. Je sais pas comment ça s'appelle en français. L'appel de la forêt.
De la forêt, ouais. Ça s'appelle la forêt.
Je sais pas. Bon, et en tout cas, donc du coup, Martin Eden, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ouais, c'est vraiment un. Bon, j'avoue que les 40 premières pages, ça a été compliqué. Très compliqué parce que les 40 premières pages, c'est une description d'un endroit nouveau pour lui et des gens qui l'entourent. Et c'est long et c'est chiant. Et c'est le premier truc que tu dois lire et t'es là. Ah mon dieu, c'est une torture. Je sais pas pourquoi j'ai. Et au début, je me demandais vraiment pourquoi j'avais décidé de lire ce livre. Et une fois que t'as passé ça, t'as beaucoup de mal à t'arrêter de le lire. Enfin, pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de le lire quand je me levais une heure plus tôt le matin pour le lire avant d'aller au travail, juste pour le lire, et quand fallait que je m'arrête de lire, c'était compliqué. J'ai même tenté de faire du Vélib en lisant mon livre. je le recommande à personne de le faire, c'est dangereux. Oui. Surtout à 3h du matin avec les tarés qui roulent, mais vraiment, oui. Non, mais voilà, et donc non, c'était vraiment génial. Et en fait, j'ai arrêté de le lire en février. Je me suis arrêté genre peut-être à une centaine de pages de la fin. Et cet été, en repartant en vacances, je l'ai relu. Enfin, j'ai continué à lire dans le train. Et je m'en suis vraiment voulu d'avoir arrêté parce que c'était vraiment génial.
I'm sorry. C'était pas du tout prévu. Je regardais la date de Martin Eden et j'ai cliqué sur un mauvais truc et ça a lancé Hamilton. I'm so sorry. Reprends.
Voilà, vraiment...
Tu t'en es voulu d'avoir arrêté de lire.
Parce que c'était vraiment génial. Enfin, c'est vraiment génial comme livre. Et, ouais, et puis, une nouvelle fois, moi, je l'ai lu pour des raisons qui me sont propres et personnelles. Mais... ça s'apparentait tellement à Martin Eden que du coup, j'étais là, ok. Voilà.
Bon, mon chéri, c'est 1909, par contre.
Ok.
T'avais dit 1812.
Il s'est passé un truc en 1812 qui m'a marqué alors.
Peut-être dans l'histoire, il parle.
Il est sorti en France en 1926.
Mais l'histoire, ça se passe pas en 1812.
Mais après, c'est peut-être qu'il l'a écrit. Enfin, je sais pas, il est mort quand, Jack London?
Bonne question.
Il est mort en 1916.
Regarde pas de quoi il est mort. Hein.
Non, il est mort en 1916. Les spoilers, ça suffit. Il est mort en 1916. Il est né. Putain, il est mort hyper jeune. Il est mort à 40 ans.
Bah oui, je suis con, c'est marqué sur la couverture que. Martin Eden, sur le mien, c'est marqué Martin Eden et c'est marqué la date. T'es là, what? Pourquoi? Ok, non, bah non, je sais pas. 1812, il s'est passé quelque chose en 1812.
Qui t'a marqué?
J'ai dû lire ou un truc de 1812.
L'appel de la forêt, by the way. Le titre que je cherchais.
Mais je vais lire aussi ce livre parce que je pense que ça m'intéressera. Mais ouais. Mais en gros, l'histoire de Martin Eden, pour ceux qui ne la connaissent pas, sans spoiler, juste pour résumer, c'est un garçon marrant. Donc un peu brut de décoffrage, on va dire. C'est un peu un beauf, clairement, qui rencontre, qui sauve le frère d'une, j'allais dire d'une gourmandine, mais pas du tout.
Gourmandine. J'adore mon petit frère.
Non, mais surtout, c'est pas du pain, c'est pas du tout une gourmandine. Mais non, d'une. Enfin, il sauve un gars d'une baston, un gars assez riche. Et donc, pour le remercier, le gars l'invite à dîner dans sa famille et il rencontre une fille qui est juste à l'opposé de lui, qui est à l'université, donc qui étudie et lui n'a jamais étudié, qui sait lire, qui sait écrire, qui est cultivée et qui parle pas comme un beauf, quoi, forcément. Qui a un vrai langage, quoi, qui a un langage soutenu, pas familier, et il tombe amoureux de cette fille. Bon, il s'en rend pas tout de suite compte, mais il est obsédé par ça, et du coup, il décide d'étudier, d'apprendre par lui-même. Et c'est vachement intéressant, et du coup, il tente de devenir écrivain.
Shut up! Stop spoiling the story! Peut-être qu'il meurt à 95 ans à la fin! Chut! Personne ne me dit rien! Mais en tout cas, effectivement.
Donc, du coup, c'est vachement intéressant et c'était vraiment génial.
Et bah, moi, je suis heureuse parce que tu me l'as offert pour mon anniversaire. J'ai demandé des livres et du coup, je vais pouvoir le lire.
Pourquoi j'ai lu Martin Eden? Et c'est grâce à Nekfeu.
Ah!
Bizarrement. Parce que dans son premier album, parce que Nekfeu est un rappeur qui lit beaucoup. Et dans son premier album, la première chanson s'appelle Martin Eden.
Et de fait, c'est Guy!
Et donc, du coup, j'ai un ami, dont je vais taire le nom, mais qui lui a chanté, avec qui on chantait la chanson tout le long quand on travaillait. Et il y a un moment où je me suis demandé ce que c'était Martin Eden. Et j'ai vu que c'était un livre, donc du coup j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Et le jour où je lui ai fait « Et toi, tu sais ce que c'est Martin Eden ?» Il fait « Non, mais c'est un titre de chanson. » Je fais « Martin Eden, c'est un livre. » Et il me fait « Hein ?» Je fais « Oui, tu sais, la chose rectangulaire avec des pages où il y a écrit dessus que tu vas lire un livre. » Et donc j'ai lu le livre et l'histoire était vraiment intéressante. Et je le recommande fortement à tout le monde parce que c'est un bon bouquin.
Bah, la bonne nouvelle, c'est que vu que la copie que tu m'as offert, qui est très très fine de taille parce que c'est écrit plus petit que je n'ai jamais vu aucun livre publié de mon existence, c'est bien parce que les 40 pages de début, ça va être justement 3 pages probablement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Marine ?
Alors moi, mon année de lecture a été, pas médiocre, mais nullissime. J'ai honte d'ailleurs. D'ailleurs, ça est une de mes résolutions, merci. Pour 2017, c'est de lire au moins un livre par mois. Ce qui, à la base, il faudrait en lire plus d'un, quoi, quand même. Mais bon, j'ai dû lire un livre en 2016 et c'est mon livre parce que voilà. En même temps, je l'ai beaucoup aimé, hein, mais voilà. C'est Harry Potter and the Cursed Child. quoi?
Non, j'ai dit surprise.
Surprise, oui. Pour vous, oui. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est une surprise. Voilà.
Donc, c'est la pièce.
C'est la pièce de théâtre qui a été pièce écrite par Jack Thorne, mais qui est basée sur l'histoire originale, bien sûr, de Thorne, J.K. Rowling et John Tiffany. Donc, voilà. Mais
je crois que c'est Rowling qui l'avait écrit en fait.
C'est adapté en tant que pièce par Jack Thorne, mais c'est l'histoire a été écrite. Ils ont écrit l'histoire à trois, et lui il a adapté en tant que pièce en fait. Ah. Et en gros, ça se passe, si mes souvenirs sont exacts, parce que tu vois, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais j'ai déjà zoppé plein de trucs. 19 ans après.
C'est juste après l'épilogue en fait, du dernier Harry Potter.
Tu vois
t'as le gamin qui remonte dans le train.
C'est exactement ça. Et en gros, ça parle du fils de Harry, donc Albus.
Albus Severus.
Albus Severus. J'allais dire Dumbledore, mais non, ce n'est pas ça son nom.
Albus Severus
Potter. Ouais. Moi aussi, j'étais là, Dumbledore. Non, c'est pas ça.
L'autre, le fils, lui, c'est le deuxième. Et le fils aîné, c'est James. Comment il s'appelle, mince, c'est quoi Albus. Le deuxième James Albus, ouais. James Albus Potter.
Ils s'appellent tous les deux Albus, du coup?
Non. Mais non, c'est Severus. Non, c'est...
Albus Severus.
Putain, je... Il perturbe, regarde.
Mais il a dit Albus Severus, Severus Potter.
Oui, oui, mais après, il m'a dit Albus. Oui, pour le deuxième. James le premier. Je sais plus, bon, c'est pas grave, écoute. Albus, en tout cas. Qui est le... Donc c'est sur son histoire, et il part dans sa première année à Hogwarts, et en gros il a peur d'être choisi comme un Slytherin et pas comme un Gryffindor comme son frère et son père, et ça montre la difficulté que de vivre dans le... dans l'image de son père aussi, parce que bon, bah, t'es le fils d'Harry Potter, quoi. C'est pas easy, quoi. Et en gros, je vais pas raconter trop de trucs non plus, mais c'est très. C'est en plus en pièce de théâtre, donc, mais c'est très facile à lire. Et c'est super sympa. Ça te renoue dans le monde d'Harry Potter. T'as les enfants de chacun. T'as Rose, qui est la fille de Ron et de Hermione.
Oui.
Hermione, pardon. Et tu as aussi, et t'as le fils Malfoy qui s'appelle Scorpius. Et petite spoiler, c'est mon personnage préféré de la pièce.
Moi, c'est ce que j'espère que cette pièce
soit toujours Malfoy, qui est super. Et ça, en fait, ça raconte. Ben, ça va être c'est un spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler parce que. En tout cas, ça raconte l'amitié quand même entre Albus et Scorpius.
Voilà. What? Tu m'as spoilé, je ne savais pas.
Tu l'as. Après.
Mais c'est moi, voilà. C'est un truc.
Et après, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus poussé que ça. Et c'est vrai que j'avais peur au départ parce que bon, c'est une pièce de théâtre, donc c'est. Je veux dire, c'est ça. Ça ne prend que des moments. De leur vie parce que ça évolue quand même assez vite, tu vois, je veux dire, ils te mettent plusieurs années dans une pièce de théâtre, quoi, donc en gros c'est juste des moments importants, etc., qui t'amènent après à une histoire qui se suit, quoi. Mais non c'était bien, quoi. J'ai dû m'arrêter au bout d'un moment parce que j'avais peur. Je me dis non, je veux pas savoir ce qui se passe, j'ai trop peur. Et c'est bien. C'est franchement. J'aimerais beaucoup le voir en pièce de théâtre d'ailleurs.
Il s'appelle James Sirius, le plus grand.
James Sirius. Voilà, je sais.
James Sirius, Albus Severus.
Il y en avait un autre.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont le nom de. Oui, il a pris Dumbledore, Sirius, son père et.
Son parrain qui est.
Et Rogue.
Et oui.
Non, putain, j'ai donné son nom français. Je me déteste.
Et Rogue, je veux dire, bah, on n'est pas dans X-Men.
J'ai dit Rogue, hein. Parce que j'étais dans X-Men.
Moi, je pense à X-Men parce que...
À Minerva.
Oh, c'est ça qu'elle s'appelle en français.
C'est pas comme ça qu'elle s'appelle, Minerva.
Non,
en tout cas, c'est rigolo parce que c'est le nom...
Je suis fan des X-Men, alors je connais très peu de choses sur X-Men.
Parce que Minerva, c'est le nom du personnage principal du bouquin dont moi, je vais parler. Transition. Moi j'ai envie de le lire Cursed Child.
C'est plus où transition, ça se passe comment?
Ben non, justement, c'est pour ça qu'on fait parce qu'on ne les a pas écrits et que c'est arrivé naturellement et que c'est ouf, quoi.
Transition, c'est plus à chaque fois, c'est quasiment.
Ouais, mais c'est ça montre que nos cerveaux fonctionnent de façon synchronisée, quoi. Donc moi, je vais parler du seul livre que j'ai fini en 2016. Donc c'est pas le seul que j'ai lu, c'est le seul que j'ai fini. C'est-à-dire que j'ai plusieurs livres que j'ai entamés.
Ah oui, j'en ai commencé aussi d'autres, mais je les ai jamais finis.
Et donc le livre que moi j'ai fini, c'est en plus, c'est un roman à l'eau de rose que j'ai lu en une journée, qui s'appelle Pet Me de Jennifer Crusie, dont j'entends parler depuis des années parce que c'est un des livres de chevet de Linda Holmes, la grande prêtresse de la pop culture chez NPR, qui a ce super podcast dont je parle tout le temps qui s'appelle Pop Culture Happy Hour, et qui est une grande défenseuse du genre littéraire des romans à l'eau de rose. Et notamment sur le fait que tous les romans à l'eau de rose ne sont pas du même niveau, ne sont pas écrits pareil, qu'il y a aussi un plaisir à lire des romans qui ne sont pas toujours très bien écrits, mais qui ont des personnages, des histoires qu'on a envie de lire. Et c'est vrai qu'il y a j'ai envie de le défendre aussi parce que ça me fait penser, tu sais, quand on a une période avec Marine où on a beaucoup lu, on a beaucoup aimé les Sookie Stackhouse, la série de Charlène Harris, d'ailleurs que j'ai jamais terminée parce que j'ai trop peur de la fin. Toi non plus. Je me suis arrêtée au 11 ou un truc comme ça, mais qui a été un moment où je me rappelle un moment, c'est j'ai commencé à les acheter. Enfin, j'ai lu le premier, je trouve ça pas mal. Donc c'est les bouquins sur lesquels sont basés True Blood. Donc je trouvais ça pas mal, mais pas terrible. Le deuxième a beaucoup plus plu. Je m'étais acheté le deuxième en me disant j'ai vu la saison 2, je vais lire le deuxième, mais comme ça, au fur et à mesure, je lirai les bouquins après chaque saison. Vu que ça me plaît que moyennement. Sauf que le 2 m'a beaucoup plus plu, donc j'ai acheté 3, 4, 5. Et en fait, je sais plus comment c'est passé, mais en gros, je suis à un point où je finissais les bouquins, j'avançais dans les bouquins et je commençais à les acheter d'occasion sur Amazon. Et en fait, je finissais les bouquins trop vite et la suite n'était pas encore arrivée, et du coup, j'étais obligée de les trouver sur internet en PDF. Pour pouvoir tenir jusqu'au moment où ils arrivaient par la poste. Et je viens de terminer celui-là. Et du coup, je devais continuer. Et comme ça, les 8 premiers, je les ai bouffés. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit d'autre. Et soyons clairs, ils sont passionnants. Moi, je trouve qu'il y a des tonnes de trucs passionnants dedans. qui sont liées à la thématique, à tout un tas de choses, mais c'est aussi du lady porn, soyons clairs. C'est un peu le principe du romance novel, c'est quand même pour les femmes, c'est vraiment le truc complètement jubilatoire à tout point de vue et complètement que t'as pas envie de lire en public parce que tu deviens tout rouge au milieu du truc. Et en même temps, les romance novels ont ce truc, et il y a généralement tous les trucs à l'eau de rose ont au moins 1, 2, 3, 4 scènes osées dedans, et c'est un peu la revanche en fait. Des auteurs femmes qui parlent, qui expliquent et qui racontent comment elles voudraient que leurs histoires d'amour se passent. Et elles sont loin d'être chastes ou pleines de repas aux chandelles. Marine, arrête de rigoler, je sens que t'as des flashbacks de tes lectures. Non, bah, c'est varié.
Jump. Oh.
Pour ceux qui ont lu Suki Stackhouse, Jump, ça va vous parler. C'est dans le 8e, 9e, 10e. Je crois que c'est dans le 10e. Bon, anyway. tout ça pour dire que Bet Me, j'en avais beaucoup entendu parler. Je l'ai lu parce que je me suis dit, ah, je vais vérifier si cette version marche, parce que c'était un truc, un e-book. Et je n'ai pas pu décoller de mon bouquin de la journée au point où Marine a dû me faire à manger pour que je me nourrisse à un moment en me disant « Je suppose que tu ne veux pas arrêter de lire. » Et je l'ai effectivement commencé à midi, fini à 23h. Et c'est... La qualité littéraire n'est pas excellente. Alors c'est rigolo, c'est le premier livre écrit par Jennifer Crusie, qu'on a écrit plein d'autres depuis. Et en fait, c'était un manuscrit qu'elle n'avait jamais vendu et qu'elle a ressorti de ses tiroirs et qu'elle a un peu modifié, mais du coup... C'est probablement un de ses premiers essais. Je suis pas sûre que les autres soient pas mieux écrits, mais les personnages sont excellents. Le personnage du mec est génial parce qu'il est, il est pas simple et il est pas juste, c'est pas un connard et en même temps c'est un vrai mec. Il a des vraies émotions. Il y a plein de petits détails sur sa personnalité, la personnalité des autres personnages masculins qui sont vraiment bien. Les filles sont très différentes les unes des autres. La personnage principale est ultra smart et en même temps bouffée par ses propres complexes et en même temps hyper indépendante. Et c'est cette espèce, et tu vois, genre un truc romantique avec un personnage féminin qui est pas débile, c'est tellement agréable à lire et ça donne envie de tomber amoureux. Ce qui est quand même cool, parce que c'est un peu le principe du romance novel. Et du coup, quand je l'ai lu et je me suis dit « Putain, cette nana est géniale », j'ai commencé à regarder, j'ai découvert qu'elle a écrit des bouquins d'essais sur genre Gilmore Girls, Angel, Buffy, j'étais là « C'est ma copine !» Et en fait, elle a donné une interview récemment sur le fait d'écrire, et c'était un truc hyper intelligent. En fait, elle a fait des études supérieures d'écriture... C'est une intello qui a décidé un jour qu'elle voulait écrire ce qu'elle voulait écrire, et que même si c'était pas reluisant pour plein de gens d'écrire de la romance, et ben elle, c'est ce qui lui plaisait, et c'est surtout, c'était un genre qui avait besoin de bons auteurs. Mais cette interview, je la mettrai en ligne parce qu'elle a dit quelque chose de très très beau auquel je pense chaque fois que j'écris quelque chose, que ce soit un tweet ou autre chose, un tweet moins parce que je l'ai réécrit moi, mais Elle a dit la première version c'est pour toi, la deuxième version faut que tu penses à la nana dans le bus qui a bossé toute la journée et qui te lit. Qu'est-ce que tu lui donnes à elle? Comment tu retiens son attention à elle alors qu'elle a juste autre chose à faire de sa vie que de se concentrer sur un bouquin qui est trop compliqué ou trop incompréhensible ou trop vaniteux, j'ai envie de dire. Donc voilà, Bet Me, j'ai rien dit sur l'histoire parce que je l'ai offert à Marine, ouais. Pour son anniversaire, je veux qu'elle le lise.
Et je veux pas qu'elle... C'est comme je vous dis, j'ai pas vraiment lu. C'est pas que je veux pas le lire,
c'est
quand
même. Mais c'est juste un plaisir.
C'est au-dessus de mon lit. Hein. Il y a tous les bouquins qu'il faut que je finisse.
Moi aussi, ça sera dans ma liste de fin. La dernière catégorie, on a fait une dernière catégorie parce qu'il y avait deux trucs dont on voulait parler qui étaient rentrés dans aucune de ces catégories-là, qui est la catégorie libre. Truc autre.
Alors, donc, c'est une catégorie libre, je vais pas parler que d'un youtubeur, je vais faire un groupe général en fait. Moi j'ai découvert cette année plusieurs youtubeurs qui s'appellent Amixem, Vodkaprod, plein d'autres youtubeurs en fait. Enfin, je vais pas dire tous leurs noms, enfin je te les donnerai, tu les mettras en bas éventuellement, on trouvera un truc pour vous les voir tous, mais il y en a tellement. Enfin, c'est vraiment les premières fois de ma vie où je vais, enfin 2016 c'était la première fois de ma vie où je me suis vraiment égaré sur YouTube. J'ai vraiment trouvé plein de choses sur YouTube. Et j'étais là, what? Comment c'est possible de trouver ça sur YouTube? Il y en a un en particulier dont je voulais parler qui s'appelle Vodkaprod, qui vient de fêter le million d'abonnés il y a peut-être 4 jours. Et je trouve ça juste ouf parce que moi, quand j'ai commencé à le suivre, il était à 200 000 abonnés. Et en fait, ce mec a fait un truc que moi j'ai trouvé ouf et qui m'a fait rêver. Il a fait une partie USA Trip sur YouTube cet été, je crois, ou c'était peut-être l'année dernière, je sais plus. Mais en tout cas, moi j'ai tout regardé. Et c'était vachement intéressant et ça m'a donné vachement envie de faire la même chose que lui.
C'est... Bah, explique, c'est quoi ?
En gros, c'est un road trip aux États-Unis. Et il passe par. Enfin, je sais pas, c'est un road trip qui fait genre peut-être 26 épisodes, sachant qu'il a fait des hors-série et qu'en gros, je sais pas, ça fait combien d'épisodes. Mais en gros, lui, il fait du BMX à la base et donc du coup, il fait. Il va dans
c'est du vélo, c'est ça ?
Ouais. Il va, il va dans les skateparks.
Il parle en langue codée. C'est les langues jeunes, je comprends rien.
Il va dans les skateparks aux États-Unis et c'est vraiment fou. Et il fait pas que ça, il y a plein de choses dedans. Enfin, c'est vraiment fou. Et il fait plein de vidéos, moi, qui me font rire. Parce que c'est mon humour. C'est absurde, on va dire. Et puis, c'est des blagues qui me font rire, moi. Et je sais que ça peut faire. Que ça ne peut te ferait pas rire, toi, personnellement. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Et
il voilà. Dit quand il dit toi, il parle à sa sœur.
Et il a rire fait comme les califs, le précis.
Et donc, voilà. Donc, du coup, ça a été vraiment. Enfin, ça m'a vraiment. Voilà. Ça m'a vraiment. Enfin, j'ai découvert ça il y a pas trop longtemps, quoi. Et c'était vraiment génial.
Et il fait quoi du coup dans ses vidéos ? Enfin là, le road trip, c'est un truc, mais sinon c'est quoi ? Il parle de la vie, il fait c'est du documentaire, il donne son opinion.
Non, il fait des vlogs de temps en temps. Donc les vlogs, c'est quand genre tu voyages, bah voilà, c'est que le truc de road trip. Un truc, tu te simules une journée, tu fais voilà, je fais ça. Mais après, il y a des trucs, c'est plus intéressant que d'autres. C'est pas genre, oh, je vais aux toilettes, je suis en train de faire caca, je me filme. Tu vois, non, c'est pas ça, c'est genre.
J'adore que ce soit ça, le premier truc qui te vient à l'esprit. Méfiez-vous le jour où il lance son vlog.
Non, c'est pas ça, c'est parce que je regarde aussi un autre youtubeur, mais je me souviens plus de son nom, mais qui fait. Mais qui a lancé un truc que j'aime beaucoup comme truc qui fait. L'émission à la base, c'était mes très chers abonnements, ou mes chers abonnements. Et c'est en gros toutes les chaînes auxquelles il est abonné, il explique pourquoi il s'y abonne, pourquoi c'est bien, pourquoi ça lui plaît, et il le dit, moi j'arrive pas à être objectif parce que c'est des chaînes que j'adore. Et après, un peu plus tard, il a fait 30 épisodes de ça, et au bout de 30 épisodes, il a lancé mes très chers non-abonnements. Et ça a mourir de rire. Et il y a des chaînes qui dénoncent, où c'est des vlogs comme ça, où c'est des mecs genre, je marche dans la campagne, je me filme. C'est inintéressant, on en a rien à foutre, et voilà. Donc bon... Et mais non, et donc du coup, enfin, c'est genre par exemple, c'est un youtubeur gaming à la base, donc de jeux vidéo, et il est invité par exemple à la Paris Games Week, et il se filme toute pendant la Paris Games Week, les trucs que nous on voit pas dans les coulisses, ils font des concours entre youtubeurs, c'est enfin, moi ça me fait. C'est drôle, puis tu vois, le bonhomme est intéressant quoi. Le bonhomme a un humour qui me fait rire. C'est
pas et il juste, s'appelle comment lui ? C'est Vodka Prod, c'est le nom ouais, du. C'est son surnom. D'accord.
Mais sinon, c'est
je croyais que t'allais parler de Panda.
Ah, et In The Panda, oui, mais alors lui, je l'ai pas découvert en 2016.
Bah, ça peut quand même être un truc que t'as regardé.
Ah ouais, In The Panda.
Moi, je l'ai découvert en 2016 parce que tu me l'as montré il y a deux jours.
In The Panda, qui fait, mais dont je te parle aussi depuis un certain temps, je pense, qui fait des critiques à la base. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, qui fait des critiques de films. Et j'étais genre en extase parce que enfin, quelqu'un qui disait un peu tout ce que je pensais. Donc, du coup, ça me faisait du bien. J'étais pas genre là à penser, mais en fait, il y a que moi qui pense à des films. En fait, non, il le pensait aussi. Et donc après j'ai découvert sa web série qui s'appelle Unknown Movie et c'est vachement intéressant. Alors il le dit lui-même, les acteurs sont pas excellents parce que il a pas le budget d'Hollywood, c'est waouh, c'est vachement bien. Et en gros c'est il y a peut-être 20 épisodes par saison, là il vient de lancer la troisième saison, c'est le deuxième épisode. Et en gros c'est un psychopathe qui tue des gens et qui en même temps qui tue les gens explique un film qui est pas connu, mais vraiment pas connu, ou un film qui est raté, mais pourquoi c'est bien en fait de le voir et c'est culte. Et c'est vachement intéressant, et tu découvres des films que t'as jamais entendu parler, et de grands réalisateurs en fait, par exemple, des premiers films le premier film de grands réalisateurs était là, ah ouais, c'est lui qui a fait ça, ah, il a carrément changé, c'est vachement intéressant de savoir que même lui, il a fait ça, et c'est vraiment ouf, quoi, et ouais. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment intéressant, même si les acteurs, bon...
C'est rigolo parce que quand on a fait un podcast l'année dernière avec Juliette de nos trucs préférés de 2015, et un des trucs préférés de Juliette en 2015, c'est 2015, c'est l'année où j'ai découvert YouTube. Et donc, elle a fait tout un segment sur, pour le coup, toutes les YouTubeuses qu'elle regardait et qu'elle avait découvert. Donc, techniquement, on est dans le rituel. Moi, mon truc... Libre de 2016, c'est que J'ai redécouvert pourquoi j'aimais Twitter dans les 4 derniers jours de l'année 2016. J'ai pas mal de soucis avec les réseaux sociaux en général. En fait, j'ai envie de dire, j'ai moins de soucis que les gens qui se plaignent des réseaux sociaux, parce que moi, je passe quand même beaucoup de temps dessus, et volontairement. Par contre, c'est vrai que je suis affectée, comme la plupart des autres gens, par la négativité ambiante. J'ai aussi l'impression que la difficulté de l'année 2016 a fait que les seuls gens qui sont restés sur Twitter sont les gens les plus négatifs et ceux que ça ne dérange pas de l'être. Donc du coup que ça a encore empiré le climat. Alors la négativité, des fois c'est pas toujours une mauvaise intention. Il y a les gens qui critiquent parce qu'ils ont envie de critiquer, mais il y a aussi les gens qui veulent dénoncer des choses. Mais il y a certaines timelines de gens que j'aime beaucoup où tu leur lis leur timeline et c'est que machin est mort, bidule, machin a été violé, machin. Et à un moment, t'es là. C'est pas que c'est pas important de le savoir, c'est que juste retweeter des trucs horribles qui se passent sans perspective, sans commentaire, sans apport autre, j'ai juste l'impression que c'est toxique. C'est aussi une façon de se décourager, d'oublier qu'il y a d'autres choses. C'est aussi. Donner un mégaphone aux médias les plus déconstructifs, on va dire, destructifs, c'est même ça le mot. Donc voilà, moi je trouve aussi qu'il y a une tendance générale de parler des trucs qu'on n'aime pas et de dire ce qui nous plaît pas, et de peu parler ou de ne pas savoir comment parler ou transmettre sur les choses qu'on aime. C'est pour ça que moi je passe mon temps à essayer de faire le contraire. C'est très compliqué de garder Twitter positif. Moi j'ai essayé. Des fois t'as envie aussi de parler de trucs que tu veux dénoncer, donc c'est compliqué. Puis des fois t'as envie d'engueuler les gens qui sont négatifs, mais du coup t'es négatif toi-même. Mais alors, par contre, moi ça c'est une de mes résolutions 2017, et les autres vous les trouverez dans un post que je vais faire où je vais me plaindre de toutes les résolutions 2016 que j'ai pas faites et que je vais essayer de faire en 2017. Mais c'est que maintenant je me tais plus, quoi. Quand le truc classique qui se passe et qui m'énerve, c'est qu'on a le droit d'avoir des opinions, bien sûr, négatives de plein de choses. Mais la prochaine fois qu'une personne A dit un truc positif, qu'il m'adresse personnellement ou pas, mais notamment quand il m'adresse à moi personnellement ou à quelqu'un d'autre un truc positif, et que, donc à personne B, et que personne C se sent obligé de commenter, pas vraiment dans le sujet, juste pour cracher dessus, je pense particulièrement à quelqu'un qui récemment, quand... ce très gentil Laurent Doucet m'a pardi que sa nièce adorerait, un troisième mec s'est senti obligé de commenter « Oh, ben j'espère qu'elle va prendre des cours et qu'elle sera moins mauvaise dans l'8. » Et à ce moment-là, je me dis, mais vraiment, déjà, on ne parlait pas des qualités de comédienne du tout, de Désirée. Là, ce n'était pas la conversation. Et surtout, c'est un peu cette impression que tu as l'impression que les gens, ils ont besoin de pisser sur ta joie, quoi. Tu dis un truc positif, ils vont te dire « Ah, ben moi, j'aime pas. » Et tu es là. À quel moment est-ce que j'ai demandé, et surtout à quel moment est-ce que j'ai dit, tu vois, si tu dis, ouais, moi j'adore ça, si vous aimez pas, vous êtes con. Bon, là, je peux comprendre qu'on ait envie de se rebeller. Mais il y a un moment où t'as l'impression que les gens ont l'impression que. Et surtout, c'est comme si tout ce qui était intéressant à dire était la chose négative. C'est-à-dire que. Ils se disent, je sais, j'ai un truc avec lequel je suis pas d'accord, donc maintenant je peux parler. Et t'as envie de dire. Really? Tu peux pas avoir les trucs. Non, mais on a quand même culturellement cette idée-là, hein, que l'idée que de dire qu'on aime quelque chose. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, ça m'énerve quand les gens me reprochent de parler de façon ininterrompue des trucs que j'aime. C'est parce que c'est comme si, du coup, parce que j'étais fan ou que j'aimais quelque chose, ça me rendait plus crédible sur le sujet. Comme si quand t'es pas fan, quand tu critiques un truc, t'es crédible, mais si t'es fan et que t'adores, t'es plus crédible. Moi, je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est. Mais après, c'est vrai que c'est un truc qu'on a. On a beaucoup ce réflexe-là. D'ailleurs, le truc que tu viens de raconter, c'était ça que le mec disait lui-même.
Ouais. Non, c'est juste qu'il dit qu'après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, mais que.
Oui, non, mais bien sûr.
Il dit forcément un peu de. Mais c'est normal, tu vois. Enfin, c'est un peu comme tout le monde, mais ça le rend pas moins crédible. Moi, je trouve que les arguments qu'il a, ils sont vachement crédibles.
Mais quelque part, c'est rigolo parce que tu imagines que ça, c'est normal de penser ça, de se dire ah, je suis pas objectif parce que j'adore. Par contre, c'est rare qu'on dise ah, je suis pas objectif parce que je déteste. Ça arrive, mais on le dit moins souvent. Oui, non, mais je parle pas de lui, je parle en général cette façon de se préjuger de base, de dire ah bah vu qu'il déteste, il est objectif, alors que inutile de dire que tous les gens qui bon passons, je vais pas recommencer à avoir des passions Star Wars pour réécouter les podcasts si vous voulez savoir mon opinion. Tout ça pour dire que ça c'était une première chose. Ça date de avant et ça s'est empiré en 2016. Et puis ensuite, Trump a été élu et là. Comment vous dire ? Twitter est devenu un enfer total. Ça ne faisait que lancer des attaques, des crises d'angoisse, des attaques de panique. C'était une catastrophe. Parce que tous les gens que j'aime et que je suis qui sont horrifiés par l'élection de Trump, du coup tweet des trucs horribles en retweetant ce qu'il a écrit, enfin du coup tu ne pouvais pas en sortir, quoi. Et du coup c'est devenu un truc où je n'allais plus sur Twitter. Et le 27 décembre, pour notre plus grand malheur à tous, Carrie Fisher est morte. Et je l'ai d'ailleurs appris sur Twitter parce que quelqu'un, Astiera, m'a écrit, enfin m'a cité quand elle a retweeté la news en disant « Je pense à YALK ». Et c'est rigolo parce que ça veut dire que pour elle, j'étais fan de Carrie Fisher. Et je pense que oui, j'étais fan de Carrie Fisher. Mais j'ai l'impression que les 4 jours qu'on suivit, grâce à Twitter, tout ce que j'ai vu, lu, entendu, compris, découvert sur Carrie Fisher l'a rendue tellement plus énorme et importante pour moi. J'ai l'impression que je suis hantée dans la façon la plus positive possible. C'est-à-dire que cette chose qui était une nouvelle tragique et triste, parce que par rapport à d'autres artistes qui ont disparu récemment, elle était sur le point... Enfin, elle venait de sortir un livre, elle était dans le 8e Star Wars, elle allait être dans le 9e. Elle avait une nouvelle plateforme, elle était connue comme elle n'avait pas été depuis longtemps. Elle pouvait parler de sa vie, de sa santé. Il y a un documentaire sur elle et sa mère qui a été fait, qui va sortir là. Enfin, elle aurait vraiment, en un an de vie, pu faire énormément de choses. Donc c'est une vraie perte concrète et matérielle pour la culture populaire. Mais au lieu que ce soit juste une perte, ça a été un gain énorme, parce que tout d'un coup, je me suis pris en pleine tête tout ce qu'elle représentait, tous les livres à elle que j'allais pouvoir lire, toutes les vidéos que j'ai vues, les photos, les messages, le nombre de gens qui ont parlé de l'influence qu'elle a eue en tant que comédienne, en tant que princesse Leia, en tant qu'auteur, en tant que plein d'autres choses, en tant que femme...
Script docteur.
Voilà, en tant que femme bipolaire qui en parlait ouvertement, en tant qu'alcoolique, en tant que drogue addict, en tant que comique. Et du coup, tout d'un coup, j'étais heureuse d'aller sur Twitter. Et j'ai d'ailleurs tweeté à mort depuis le 27. Je vais faire un storyfy de tous les trucs que j'ai vus sur Leia, parce que... Je l'appelle Leia. Mais notamment parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à Leia et beaucoup de choses qui étaient liées à Carrie Fisher et bien sûr à sa mère qui a disparu. So horrible. La bonne nouvelle, c'est que le documentaire sur leur relation va sortir le 7 janvier sur HBO. Et je vous préviens, on regarde tous ensemble. Enfin, en tout cas, on regardera nous deux. Parce que Thibaut avait l'air dubitatif devant cette option.
Oh, je suis pas là le 7, d'ailleurs. On n'est pas là le 7. On ne regardera pas le 7 ce soir.
Oui, mais non, mais de toute façon, on n'a pas HBO, ma chérie.
Les gens ne savent pas ça.
Et donc, voilà. Et donc, du coup, ben, j'ai redécouvert le potentiel des réseaux sociaux, qui est un... Jamais, sur aucune autre plateforme, j'aurais pu avoir accès à autant de choses et autant d'informations et autant de messages. Et c'est vrai que ça, c'est Twitter aussi. C'est quelque chose que... Et quelque part, je l'ai ressenti au moment de la disparition de David Bowie aussi. D'une façon... Il n'y a aucune autre forme de communication qui aurait pu faire ce que moi, j'ai vécu en étant sur Twitter ces jours-là. Et du coup, ça m'a fait me rappeler, en général, du côté positif de la globalisation. C'est-à-dire que oui, il y a la perte d'identité, blablabla, mais il y a aussi le fait que tu peux trouver des choses, avoir accès à des choses et partager des choses comme jamais avant.
Un apport de savoir qui est... Oui, tout à fait.
Mais ce qui prouve bien que la technologie, comme tout le reste de la politique et tout, c'est pas... On subit pas le monde. On en fait ce qu'on veut, on en fait ce qu'on décide d'en faire. Tu décides qui tu suis sur Twitter, tu décides comment tu réagis à Twitter, tu décides à qui tu parles et à qui tu parles pas, tu décides avec qui tu te prends la tête ou pas. Et quelque part, c'est comme tout le reste, tout le monde dit 2016 a été horrible, 2016 a été horrible. Oui, mais aussi parce qu'on ne parle que de ce qui a été horrible. Je veux dire, nous, dans cette famille, on a eu, et moi, la moins d'entre nous, des vraies, vraies, vraies raisons d'avoir une année pourrie. Et du coup, j'ai eu l'impression que les gens qui disent, qui parlent de leur année pourrie, c'est aussi parce qu'ils l'ont subi comme ça, parce qu'ils se sont laissés détruire, démoraliser, décourager par les médias, par les infos.
Dans le tourbillon, quoi.
Voilà. Et parce que les médias ne sont toujours désespérés d'être en train de disparaître et du coup ne crachent que des mauvaises nouvelles, et même des fois des articles positifs ont juste des titres horribles, qui fait que tu passes ton temps à, je suis surtout sur Twitter, à ne voir que de la merde.
Ouais.
Tu vois que les trucs horribles. Et en fait, quand tu cliques sur les articles et tu lis le truc, tu fais « Ah bah non, mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. » Mais pour accrocher le clic, en fait, il crée une calcification de négativité.
C'est cette vidéo qui est bien, là. Tout n'a pas été pourri en 2016, tu sais, en 2016, avec où il te montre les trucs avec « Il y a plus de pandas, c'est marrant parce que vous l'avez posé tous les deux.
Moi, j'ai
vu par un pote qui habite à Londres. Et en gros, je me suis dit, faut que je le reposte. Et puis finalement, j'ai oublié. Mais ça m'a fait vraiment, ça m'a fait plaisir, quoi. Alors que c'est des petits trucs, hein. C'est vraiment, en plus, c'est par rapport à la planète, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus mondial. Et vous l'avez posté genre le jour d'après, quoi. En fait, ça m'a fait, je fais genre, ah, ils l'ont vu.
Et dans les derniers jours de 2016, on a recommencé à regarder Buffy avec Marine parce que j'écris enfin mon livre. Et il y a un épisode.
Je suis engagée pour refaire l'intégrale avec elle.
Et il y a un épisode qui s'appelle, je crois, Cauchemar en anglais, mais en tout cas en français, mais qui s'appelle Nightmares de la première saison, qui est pour moi un des épisodes principaux, enfin très important de la saison 1. Et dedans, les cauchemars prennent vie et donc les gens sont complètement assaillis par leurs peurs qui deviennent tout d'un coup concrètes. Et à un moment, Buffy dit au méchant qui lui fait le plus peur qu'il peut pas être là, que c'est pas possible. Et d'ici, c'est possible parce que t'en as peur. Et il dit, le monde est en train de s'écrouler parce que vous en avez peur. Et la peur crée la réalité. Et l'appréhension, et en fait c'est ça, on crée notre réalité. Et donc si on continue à dire que le monde est pourri et que c'est la fin du monde, eh ben, il n'y a aucune raison que ça change.
C'est la route humaine à une phrase de Yoda, que je ne connais pas par cœur, mais qui en gros dit que l'amour mène à l'attachement mène à la peur, et la peur mène au côté obscur.
Non, mais c'est pas l'amour qui amène au côté obscur.
Si, parce que justement, t'as peur de perdre la personne à qui t'es attachée.
Oui, mais c'est. Enfin, non, mais en tout cas, il dit la peur mène à la colère, qui mène à la haine, qui mène au côté obscur. Ouais. Mais c'est l'amour, c'est la lumière.
C'est l'attachement aussi. Il parle de l'attachement, justement, aux gens. Pourquoi les Jedi, ils ont pas le droit à l'attachement? Parce que justement.
Mais ça, c'est peut-être dans les premiers épisodes, oui. Mais pas dans les 3, 4, 4 5. C'est... Mais non, mais parce que justement, c'est que la philosophie qui est traitée dans les premiers épisodes, je suis pas d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils ont en 4, 5, 6, mais pas dans 1, 2, 3. Et ce que disons, ça voudrait dire que aimer des gens, c'est dangereux. Et j'avoue que ça va contre toutes mes croyances philosophiques personnelles.
Moi, je veux juste revenir sur ce que j'ai dit avant. Donc le gars dont je vous parlais, il s'appelle Antox Colaboy, le gars qui fait mes chers abonnements et mes chers non-abonnements. Et je tiens juste à préciser, parce que c'est facile de penser qu'il critique juste. Alors, il critique, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est d'une manière vraiment constructive. C'est pas genre juste « Ah, regardez, il fait que de la merde ». Non, quand il peut pas blairer le gars, il le dit aussi. Et il le dit au début de la vidéo, je ne serai pas aux objectifs, le gars m'énerve, je l'aime pas à la base. Donc ça aide pas, mais il juge comme il le dit souvent, c'est pas personnel, c'est le contenu de la chaîne que je juge, et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas genre juste ah je me fais plaisir, et il faut savoir aussi, vraiment je le répète, il a d'abord lancé mes chers abonnements, c'est, à la base c'est du positif.
Il montre, il dénonce un peu aussi en même temps, quoi.
Voilà, c'est ça, et d'ailleurs, comme il le dit, il a un ordre, il fait... une vidéo de mes chers abonnements et une vidéo de mes chers non-abonnements. Il fait
un positif, un négatif, un positif, un négatif.
Il y a beaucoup de gens qui commentent ouais, tu fais que des non-abonnements. Non, lui-même il le dit non, parce qu'à la base, sa chaîne il l'a créée pour partager avec sa famille, parce qu'à la base c'était des vidéos qu'il mettait sur Facebook, pour partager avec sa famille les vidéos qu'il aimait bien sur YouTube.
Et il a découvert comme moi que d'essayer de convaincre sa famille de regarder des trucs forcés, ça marchait pas et qu'il fallait mieux s'adresser au reste du monde.
Voilà. Donc, et y a un deuxième YouTuber qui dénonce lui. Et alors lui, pour le coup, il fait juste... c'est constructif aussi, mais et je pense que c'est le chroniqueur sale qui parle de rap. Et moi, j'ai découvert sur un épisode sur Jul. Il y a un an jour pour jour, enfin quasiment un an jour pour jour, parce qu'il a sorti le 24 décembre 2015. Et en fait, lui, donc, je pense qu'il a un masque, on ne sait pas qui c'est.
Ah, j'ai vu son truc, ok.
Oui, c'est l'intérêt du bonhomme, c'est qu'on ne sait pas qui c'est, mais quelques personnes l'ont découvert.
Dont toi.
Voilà.
Je ne vais pas. Tu n'as pas le droit de dire.
C'est. Voilà, on ne dira pas qui c'est, parce que c'est le mythe, justement, c'est le fait qu'il soit masqué, c'est que ça peut être n'importe qui. Mais c'est un très bon producteur. Il fait des prods qui sont vachement lourds en rap. Et il a une soundbox qui s'appelle Le Chroniqueur Sale. Où tu vois que le mec, il sait de quoi il parle et il sait pourquoi il le dit. Et c'est pas un gamin de 20 ans, c'est un mec qui, je pense, on a 45. Donc qui a connu l'âge d'or du rap français, on va dire. Et qui parle de choses et tu sais pourquoi il en parle. Et il parle aussi du cheveu de rappeur qu'il aime bien. Et c'est vachement intéressant. Et ça, c'est. Pour ceux qui s'intéressent au rap français, il donne aussi, il fait des playlists où il explique ce qu'il écoute. Et c'est moi aussi, c'est comme ça que j'ai fait, que je me suis fait une grosse culture dans le rap français, parce qu'ils donnent vraiment des trucs et c'est vachement intéressant.
Je voulais finir mon truc parce que Twitter c'était donc aussi l'option de parler de Carrie Fisher. Je voulais finir avec un mot sur Carrie Fisher parce que je suis pas la seule à avoir être triste qu'elle soit disparue et je voulais que vous disiez vous aussi ce qu'elle représentait pour vous, ou ce qu'elle représente pour vous, enfin que ce soit pas juste moi toute seule avec mon. Parce qu'en fait le problème c'est que je suis tellement obsessionnelle et passionnée que du coup on a l'impression que je suis la seule à être fan.
Ouais, bah moi je suis aussi très triste oui, qu'elle soit partie. Pour Star Wars, bien sûr. Je m'étais acheté son livre courant décembre, The Princess Diarist. Et c'est vrai que, comme toi, je la connaissais pas assez bien. Je l'ai pas. Je savais pas qu'elle avait écrit autant de choses. Malgré le fait qu'elle a quand même baigné ma jeunesse avec les films qu'on a pu voir comme Quand Harry rencontre Sally ou les Blues Brothers où elle a toujours des caméos dans plein de petits films. Enfin, j'ai vu Catastrophe où elle joue dedans et elle est absolument génialissime. Elle a toujours été présente sans être là en fait. Enfin, sans que tu. Elle faisait partie de ta vie en fait. Tu la connaissais pas vraiment en fait, et c'est vrai que le fait de. C'est horrible, mais en même temps c'est beau de dire ça parce qu'en fait sa mort nous permet de la découvrir et de se rendre compte tel point, au point qu'elle était tellement géniale. Et en gros, ça. Ouais, c'est.
Et je pense qu'on va passer 2017.
C'est vraiment. On va passer 2017
avec Carrie Fisher.
À utiliser tout ce qu'elle a fait et. J'ai juste envie de voir, de lire tous ses bouquins, de voir les adaptations. C'est Mac Nichols qui a fait Anken,
celui avec Meryl Streep. Il y a un film avec Meryl Streep, Postcards from the Edge.
C'est un bon réalisateur. Enfin, je veux dire, c'est. C'est super. Enfin, c'est super triste et en même temps, c'est magnifique ce qu'elle nous apporte. Quoi.
Moi aussi, je suis très triste parce que c'était vachement soudain quand même. On s'y attendait pas, on savait qu'elle était pas bien parce qu'elle a fait une crise cardiaque, mais la crise cardiaque, ce que je veux dire, c'est que quand on a appris qu'elle a fait une crise cardiaque dans l'avion, c'était vachement soudain, rien ne laissait l'imaginer en fait, donc du coup c'était waouh, ça a fait un gros choc. Et pour moi Carrie Fisher, je la connaissais pas vraiment hors Star Wars, donc du coup j'ai appris à la connaître grâce à Twitter aussi. Et grâce à In The Panda qui lui a rendu un très bel hommage dans une de ses vidéos que je t'ai montré. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment fait un choc. J'étais vraiment triste parce que pour moi quand j'étais petit, beaucoup de garçons rêvaient que Carrie Fisher, était amoureux de Carrie Fisher en tant que princesse Leia. Moi je rêvais que princesse Leia soit ma mère. Il y a peut-être un message à comprendre. Et donc du coup c'est vrai que moi ça m'a fait vachement. Enfin ça m'a vraiment.
Ouais. Et je pense que on va en parler pendant 2017 parce que moi je me suis acheté Wishful Drinking et je vais m'acheter ses autres livres et on va te montrer Quand Harry rencontre Sally. On va réussir à te convaincre de regarder Quand Harry rencontre Sally, qui est la comédie romantique qui a changé la façon dont les comédies romantiques sont faites dans les années 80 et dont elle joue un super second rôle avec des moments légendaires.
T'as pas vu les Blues Brothers?
On va continuer l'éducation film années 80. Après, hier, on a regardé Ferris Bueller. Liste très rapide. Tous les autres trucs dont vous auriez voulu parler, vous n'avez pas le droit d'en parler dans le détail. Juste, vous avez le droit de dire les titres. Toutes listes confondues, toutes catégories confondues, les films que vous avez aimés, les livres, les machins. Je peux commencer, j'en ai 200 000.
Moi, comme ça qui me vient, il y a Le Quatrième Mur. C'est un beau bouquin. Je me souviens plus du titre de l'auteur. Je me souviens plus du nom de l'auteur. Mais c'est vraiment un beau bouquin, je vous le conseille aussi. Le film que j'ai vu en 2016, qui est sorti fin 2015, c'est Comment c'est loin, de Orel Sen. Je suis un grand fan des Casseurs Flotteurs et de Ralsen, donc mon objectivité sur ce film est quasi nulle, mais j'adore. Suicide Squad.
Contrairement aux avis étrangers et autres.
Ce film est génial, je ne vois pas comment on ne peut pas l'aimer, même si, effectivement, comme il est un peu raté sur certains trucs, mais il est tellement génial, et surtout Margot Robbie. Je l'ai vachement en 2016.
Moi, en 2016, alors il y a eu des séries qui m'ont vraiment touché, genre, donc il y a Rollies. que j'adore, enfin à voir absolument. Musique, j'ai Frightened Rabbits, groupe que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. J'ai redécouvert The Head and the Heart, qu'on va aller voir en concert bientôt, d'ailleurs le 22, je crois, Jean-Luc, qui est un de mes cadeaux de Noël pour Yael. Donc voilà. En film, j'ai adoré Train to Busan, j'ai découvert ça, pas des Coréens, c'était super, et bon, en France, vous connaissez bien, je crois.
Moi, je vais commencer par les livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Notamment, il y a Brown Girl Dreaming, qui est absolument sublime de ce que j'en ai lu. C'est les mémoires d'une femme noire qui a grandi dans les années 60. C'est écrit, ça ressemble à des poèmes, mais c'est linéaire, donc il y a des courts chapitres, mais l'histoire se suit, c'est pas un recueil de poèmes, mais c'est comme une autobiographie écrite sous forme de poème, en prose, mais quand même poème. Le bouquin de Trevor Noah que j'ai demandé à Noël et qu'on m'a offert et qui est absolument génial des quelques pages que j'en ai lues. Alors, il y a toutes les vieilles séries que j'ai regardées cette année, revues cette année pour la 250e millième fois. Parks and Recreation, Lois et Clark, Scarecrow and Mrs. King, qui est les deux fonds de la paire. C'est les années 80 que en ce moment je regarde tous les ans et qui est génial. Life, Studio 60 and Sunset Strip, Psych, mais il y a aussi les nouvelles séries, toutes les séries d'ici qui sont assez fascinantes, même si j'aime moins The Flash et que Legends of Tomorrow est un peu naze. L'univers partagé est super cool. Supergirl est super cool. Et en plus, pas que la nouvelle saison de The Flash est vraiment intéressante. Bien sûr, Crazy Ex-Girlfriend, bien sûr, Superstore, toutes les autres séries dont je parle dans mon Top Test Magazine qui va bientôt sortir. Les séries que j'ai pas encore eu le temps de regarder, comme Queen Sugar et This Is Us. Stranger Things, qui était super fun parce qu'on l'a bingé en une soirée, ce qui nous était pas arrivé depuis super longtemps. Archer, qui est toujours aussi génial. Mom, Bing Bang et les autres sitcoms traditionnels qui restent à être plus intelligentes que plein d'autres. Et dans les films, il y a American Honey et surtout son soundtrack.
American Honey qui est absolument génial.
Civil War que j'ai beaucoup aimé. Doctor Strange que j'ai beaucoup aimé. Tony Erdmann qui est le film allemand qui nous a fait enfin aller voir un film allemand en Allemagne, ce qui était pas mal. The Nice Guys qui était très très fun. Donc j'ai dit Doctor Strange. Bien sûr les Star Wars, même si c'est sorti techniquement en 2015, Star Wars 7, je l'ai vu tellement de fois en 2016 que ouais, ça compte. Rogue One qui était vachement cool. En musique. Je termine par la musique. Alors, dans le désordre, 21 Pilots, surtout grâce à mon petit frère. Le super festival de Berlin, on est allé en octobre, où ils faisaient de la live musique partout, qui avait...
Endless Names, ça s'appelait Endless Names au départ.
D'accord.
Et c'est People, je ne sais même plus le nom.
Enfin, on s'en fout, c'était juste super cool. C'était deux jours au milieu de nulle part, avec 80 artistes.
Damien Rice, etc. Donc, c'était bien.
C'est ça. Waitress, l'autre comédie musicale de 2016, dont on parle moins, mais qui est vachement bien. On est allé voir Band of Horses en concert, et c'était super. Enfin, ils étaient en première partie de Beck, mais c'était super. Jason Isbell, Barnes, Halsey, Torres, Laura Marling, la chanson Here de Alessia Cora qui est sortie en 2015 mais que j'ai écoutée en 2016, bien sûr David Bowie, et What's Going On de Marvin Gaye que j'ai beaucoup 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 écoutée cette année parce qu'elle est grave grave pertinente pour maintenant, enfin techniquement pour toujours. J'ai un peu commencé une playlist qui s'appelle Post-Trump Traumatic Stress Disorder et 200 et ça commence par Marvin Gaye, What's Going On, et voilà.
Moi il y a le dernier train pour Busan dont tu as parlé que j'avais beaucoup aimé, 21 Pilots, Vald qui est un autre rappeur qui est totalement déjanté mais qu'est-ce qu'il est drôle et enfin il est vachement absurde mais
je trouve,
ouais, voilà. Vald et sinon pas un film, rien du tout, enfin c'est pas un film, c'est pas une musique, c'est pas une série, mais juste Ma Nouvelle Ville, Berlin, qui est genre juste génial. Donc voilà. Moi, c'est mes gros likes de 2016.
Et au moins, t'as dit Berlin, il y a eu un feu d'artifice qui est passé derrière, tu ne l'as pas vu. Genre. Berlin.
Et donc maintenant, parce que quand même, on est un peu en 2017 et on a parlé de 2016 depuis le début, attente, votre attente numéro 1. Votre attente, vos attentes. Enfin...
Est-ce qu'on peut dire plusieurs trucs rapidement?
Très, très, très rapidement.
Le plus gros truc que j'attends. Les Gardiens de la Galaxie 2, puisque je suis vraiment fan, je l'attends beaucoup.
Yeah.
Et sinon, 2-3 trucs que j'attends, donc le nouvel album de Vald, qui sort en mars, je crois, au février. Le nouvel album d'Orelsan, le nouvel album de Grange, qui sont à eux deux, les casseurs flotteurs. L'album de leur copain de Clo.
qui sera peut-être génial, bien, et peut-être débile, ouais, on verra.
Et voilà. C'est
déjà pas mal. Marine ?
Moi, 2017, à part le fait que j'attends plein de choses d'une façon personnelle et professionnelle avec elle, qui est notre premier film, notre première web série, tout en fait, et qu'on devienne les reines du pétrole. Bon, ça va prendre plus de temps. À part ça, dans les films que je, les films que j'attends impatiemment, c'est La La Land, qui va sortir dans quelques semaines, si ce n'est deux. Je suis impatiente, je pense que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas Yael? Guardian of the Galaxy 2. Guardian of the Galaxy 2, bien sûr.
Grave.
Complètement. J'attends Wonder Woman, mais alors, vachement. Oh,
yes.
Moonlight, qui est déjà sorti, mais qui ne sort que en mars ici, parce que les films sortent vachement plus tard en Allemagne, et donc c'est super dur. Il y a The Edge of Seventeen qui sort en mars aussi, que je veux absolument voir. Moi aussi. Et en série, il y a donc The Good Fight, le dernier King. J'ai très très peur parce que j'ai très très peur, mais c'est Power Woman Show. Impatiente. Voilà en gros ce que j'attends de 2017, ce qui est pas mal quand même.
Donc j'attends tout ce qu'attend Marine. Mais le truc que j'ai choisi pour 2017, toi j'attends aussi Guardians of the Galaxy, après les autres je les connais pas, mais après Gringe, Casseur Flotteur, enfin ça a l'air intéressant, mais voilà, j'attends particulièrement le truc dont parle Marine. Mon attente 2017, je sais même pas s'il y a une date, ce qui va se passer, mais le 30 septembre, Ryan Adams a tweeté que Jenny Lewis, ma chanteuse préférée de tous les temps, venait de débarquer dans son studio avec la tête pleine de chansons. Il a tweeté plusieurs trucs qui montraient qu'ils étaient en train d'enregistrer pendant les deux semaines qu'on suivit, plus des trucs de post-production fin novembre. Donc je pense que ça veut dire qu'en 2017, il va y avoir un album de Jenny Lewis. Et j'espère que c'est vrai. Et Dieu sait si on en a besoin. Enfin, moi en tout cas, j'en ai besoin. Et le dernier, c'était The Voyager, qu'elle a fait pile au moment où j'ai changé de pays.
Je m'en souviens.
Et du coup, bah, maintenant, voilà, je voudrais bien un soundtrack pour 2017, Jenny, si tu m'entends. Merci d'avance.
Et il y a aussi, bien sûr, Hamilton à Londres. Bon. Ça arrive à la fin d'année, donc ça va être sûrement pour.
Et Star Wars 8.
2018.
Et Star Wars 8, bien sûr.
Fin décembre. Mais ça, on en parlera en 2000. Le 1er janvier 2018.
De comment on a adoré Star Wars 8. Ou
attends,
pas.
On est en 2017, ou pas. Les amis. On est en 2017.
Hashtag on est vieux.
Putain, je me tais.
Donc on est vieux et c'est pas grave. Alors merci d'avoir participé. Alors petit Bert, tu es sur Twitter depuis très peu de temps. Est-ce que tu peux épeler ton Twitter pour alors, les gens qui veulent te c'est... dire ce qui te peut demander c'est qui le ouais. mec qui est caché alors... derrière son masque ou c'était quoi la blague débile que t'as voulu faire tout à l'heure.
C'est petit Bert, ça se prononce donc petit P E T I T B A E
A R. Je crois que t'as mis
ouais.
deux.
Ouais c'est ça.
B A E A R.
Voilà c'est ça.
Toi Marine sur Twitter
Marskaya, donc M-O-R-S-K-A-Y-A.
Moi c'est Yaelka, Y-A-E-L-K-A. Le podcast, le site est I Cannot Sit Still sur Twitter, mais avec un seul L à la fin. Alors je vous re-épelle ce site imprononçable, ce qui est I-C-A-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L, ou un seul L sur Twitter. On va commencer à essayer de. Je vais commencer pour être honnête à essayer de mettre plus de trucs sur le site. Quoi qu'il arrive, on espère que vous avez aimé ce podcast qui à mon avis sera en plusieurs parties. Dites-nous ce que vous avez aimé en 2016. Essayez de ne pas être trop négatif sur Twitter. Pensez à Carrie Fisher et puis sinon passez une excellente année 2017 en pop culture.
Que la force soit avec vous en 2017.
Voilà. Voilà, en pop culture, mais aussi dans tout le reste de votre vie. J'ai craché un truc, c'est ça?
Non, c'est une bête qui vient de partir. Tu viens d'écraser.
J'ai failli la manger. Donc. Elle me dit, montre un truc, je dis, je vais le bouffer, c'est un truc qui traîne. C'est une miette.
Et c'est là où tu vois que tu tiens bien de ta mère. Je suis désolée, c'est pas un pic, mais Dan a failli la bouffer.
Ok,
super histoire.
Alors,
tu sais que maman a plus de chances d'écouter ce podcast que qui que ce soit d'autre. Et là, tu viens. Histoire. Oui, mais c'est pas ça. Tu viens de la dénoncer devant tout le monde du fait qu'elle a failli bouffer un cafard. Non, it's too funny.
Tu dis quelqu'un a failli manger. Non, merci. Bon bref. Donc moi, merci.
Attends. Bon bref. 1, 2, 3, pause.